been sitting here and I'm getting drunk. Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Radio Campus, c'est l'émission Panthère Rouge qui commence, animée par Lise Claire et Clément aux manettes. Face à l'effondrement de l'économie, les classes dirigeantes du monde entier n'ont pas d'alternative, tandis que les classes populaires en ont une. Paradoxe ? Non, les classes dirigeantes sont dos au mur. Elles le sont en ce sens qu'elles ne peuvent plus à court terme assurer la survie du système capitaliste qu'en procédant à des agressions de plus en plus nombreuses et de plus en plus brutales pour récupérer le plus de valeur possible sur le dos des salariés à l'échelle mondiale. En France, les gouvernants annoncent presque chaque jour de nouvelles attaques frontales contre les salariés et la population ayant déjà les revenus les plus faibles. TVA antisociale, destruction des cadres légaux et collectifs du Code du travail, avec à présent les accords de compétitivité par entreprise. Imposition de près de 200 000 familles aux revenus très modestes, atteinte aux droits de grève dans certains secteurs aéronautiques, etc. La feuille de route est très claire et vaudra pour le successeur de Sarkozy. Gouvernants, financiers, industriels ou grands propriétaires fonciers, ces gens sont en fait aux abois, pour les plus lucides d'entre eux. Ils voient bien qu'ils sont toujours face à une montagne de capitaux aussi fictifs qu'explosifs. Par ailleurs, il leur devient de plus en plus laborieux d'assurer la reproduction du capital et de dégager les masses de profits réels qui seraient nécessaires pour pérenniser le fonctionnement de cette machine infernale qui s'écroulera si elle ne continue pas à foncer et à tout défoncer. Comment interpréter autrement leur appel pathétique à relancer la croissance, à réduire le coût de travail, à supprimer les dépenses concernant les services publics, les retraites et les indemnités de chômage? Par leur incantation tournée vers la compétitivité et la valeur travail, ils ne peuvent pas mieux avouer que sans notre exploitation la plus intense possible, sans le travail vivant, le capitalisme meurt ipso facto. Comme la productivité a augmenté ces dernières années de façon extraordinaire dans tous les pays, y compris ceux dits émergents, la masse des prolétaires nécessaires pour produire les marchandises encore vendables, pour l'instant, doit être drastiquement réduite. La tendance lourde au licenciement massif, à la réduction des salaires, à la destruction des secteurs utiles mais pas générateurs de profits, se déploie dans tous les pays sans exception. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? C'est nous, travailleurs et peuples du monde, qui fixeront la limite, qui diront « basta, on ne peut plus, on ne veut plus, on passe à d'autres rapports sociaux et ça démarre dès maintenant ». Il y a nécessairement une limite à notre acceptation de ce processus de reproduction du capital, qui est un processus de destruction de l'environnement, de notre santé et de nos vies. C'est pourquoi nous détenons l'alternative, supporter encore et encore la logique du capitalisme dans tous les domaines, ou bien la contester, la refuser, la miner, la briser. On nous a assez répété que nous vivons désormais à l'ère de la mondialisation et qu'il fallait faire avec. Nous allons faire avec, mais à notre façon. Chaque lutte, chaque grève, chaque mobilisation, révolte, rébellion, révolution doit être pensée et menée dans ce contexte mondial, en sachant que nous avons, dans tous les autres pays, des frères et des sœurs en lutte qui veulent, comme nous, vivre dignement, librement, heureusement. C'est cette perception qui donnera aux luttes en cours la plénitude de leur sens et un jour toute leur efficacité. Cet édito, c'est celui du journal de notre bord sur le site Culture et Révolution. Elle est si juste qu'on l'a reprise mot pour mot. Elle introduit à merveille cette émission dans laquelle nous commencerons par un inventaire de l'austérité en Europe, puis dans laquelle nous vous emmènerons en Grèce, un laboratoire de lutte sociale qui nous inspire en France, aux États-Unis ou dans les pays arabes. L'internationalisme va mieux que jamais, tout est permis d'espérer.
the two of us on the street. You know a man like me means you no harm. I just got something to say, hopefully something that'll brighten up your day. Let me get it out and I'll move on. Even though I don't look hard, I still got my heart. You know I'm a person too, even though you might not think it's true. Dead wrong. Yeah, you're dead wrong. Scary sight to run into a bunch of us at night. You might think we're all fucked up high. Surprise, I don't got that rock in my eyes. But I do have a song to sing, a story to tell, a dream of diamond things. But until God truly decides, I guess I'm stuck in hard times. I know that I'm okay, so long as I stay brave. I ain't asking to be saved, I'm just saying tough life this way. Baby, you're dead wrong. Oh, darling, you're dead wrong. I know that I am dead on. When I say you don't know me, you're dead wrong. Come on, baby.
Panthère Rouge jusqu'à 19h, nous sommes avec Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors tu nous as préparé un inventaire de l'austérité en Europe.
Oui, alors c'est un petit peu long et c'est un peu déprimant, mais je suis sûre que vous et auditeurs, vous allez arriver à tout écouter. Et aussi, ça se répète aussi. On voit qu'ils ont un petit peu toutes les mêmes idées sur comment détruire le statut
il y a une cohérence
des gouvernements.
Mais peut-être que ça va pas nous déprimer, hein, peut-être que ça va nous révolter
Bah, en tout cas ça révolte tout le monde dans tous les pays, c'est aussi la chose qui est intéressante à savoir. Alors pour commencer,
la France.
Donc le premier point, c'est l'accord compétitivité emploi qui sera négocié entreprise par entreprise. Donc les patrons seront autorisés à diminuer les horaires et les salaires des travailleurs ou à augmenter les horaires sans augmenter les salaires. Donc sous prétexte de permettre aux entreprises de renforcer leur compétitivité. Les patrons pourront se débarrasser des conventions collectives, si ce n'est du code du travail. Ces accords auraient force de loi au-dessus des conventions collectives, au-dessus même du code du travail.
Donc c'est plus la peine d'avoir un code du travail.
Non, ça sert à rien. De toute façon, tu es un travailleur, tu n'as plus de droits. C'est vrai que pour augmenter, par exemple, la compétitivité des entreprises, donc le track de la CGT que j'ai lu, où j'ai tiré ces informations, il proposait aussi de diminuer la part réservée réservée aux actionnaires pour augmenter la compétitivité, mais enfin, c'était une proposition que je trouvais intéressante. Sinon, bon, le deuxième gros point, c'est la TVA sociale. Donc les patrons, plus ceux des grandes entreprises que ceux des petites, seront exonérés de leur 5,4% de cotisation due à la branche famille de la sécurité sociale pour compenser cette perte de cotisation patronale, le gouvernement prévoit le passage de la TVA de 19,6% à 21,2% sur tous les produits et services, ce qui coûtera 300 euros par an environ pour chaque famille. Et avec cette hausse de 1,6% de la TVA, les prix des produits de consommation, qui sont déjà en forte hausse, vont exploser. Et on s'attend à une hausse des prix officiels de 4 à 5% en 2012. Donc voilà, si vous trouvez que la vie est chère, ça sera encore plus cher parce qu'il faut que les patrons payent moins de cotisations sociales. Voilà. Alors ça, c'est...
Pour la compétitivité.
Pour la compétitivité.
Super. Alors, ça, c'est pour la France, ça s'arrête là quand même.
Oui, enfin, les points importants. Après, je pense que vous êtes tous un petit peu au courant de ce qui se passe au niveau de l'éducation, de la santé.
Oui, c'est bon. On va passer à un autre pays.
L'autre pays, l'Allemagne.
Alors, si on décide de plutôt émigrer en Allemagne pour mieux s'en sortir, qu'est-ce qui se passe?
Alors, en Allemagne, c'est intéressant.
C'est quand même un pays riche, c'est ce qu'on présente par rapport à la Grèce.
Oui, et surtout, c'est un pays où ils se vantent d'avoir réussi à créer de l'emploi. Parce que, en fait, ils ont supprimé des emplois à taux plein un peu partout en Allemagne et ils les ont ensuite remplacés par des postes à temps partiel, voire des mini-jobs payés au maximum de 400 euros par mois. Donc effectivement, il y a plein d'emplois, sauf que l'on ne peut pas en vivre. Donc il y a 3 millions d'ouvriers avec un travail qui vivent quand même sous le seuil de pauvreté. Donc tu travailles, mais tu es pauvre. Enfin, bref.
Donc en fait, il faut avoir plusieurs travails.
Oui, il faut avoir plusieurs travails.
Ce qu'on avait comme revenu avec un travail, pour avoir la même chose, il faut avoir plusieurs travails.
Voilà, si tu arrives à avoir plusieurs travails, enfin, si tu n'as pas besoin de dormir.
Si tu as le don d'ubiquité.
D'ubiquité, tout ça, tu peux bien t'en sortir. Donc les gouvernements ont assoupli les lois concernant les mini-jobs, l'intérim et le temps partiel, et ont consenti les avantages au patronat pour la création de boulots particulièrement mal payés. Donc le deuxième point, c'est les lois Hartz IV.
À propos du chômage, là.
Voilà. Ces lois ont obligé les chômeurs à accepter n'importe quel emploi, même à temps partiel, et à n'importe quel salaire.
Mais c'est un peu contradictoire, un chômeur qui travaille, c'est pas un chômeur.
Non, c'est un esclave. L'ensemble des salaires a baissé, il n'y a pas de SMIC, donc 2 millions sont payés à 4 euros de l'heure. Les chômeurs doivent travailler à 1 euro de l'heure pour avoir droit au maigre 315 euros de leur allocation chômage.
En fait, en pratique, c'est ça, pour avoir les allocations chômage, le chômeur doit parfois, quand on lui demande, accepter un travail.
Je crois que c'est... Voilà, il est obligé de travailler. Alors, je ne connais pas exactement la fréquence de cette obligation, mais il est obligé de travailler à des prix absolument faramineux. Et ensuite, c'est le gouvernement qui complète, surtout pas les entreprises. Hein, c'est le gouvernement qui va payer le complément pour que ces gens puissent vivre. Et donc, le troisième point, c'est la retraite qui est poussée à 67 ans. Et en ayant supprimé les charges des patrons, des millions de salariés n'ont plus d'assurance maladie et de retraite.
Donc, ça fait pas très riche comme pays, finalement.
Non, ça fait pas très riche, mais ils ont du travail. Bon, conséquence, beaucoup doivent demander une sorte de RSA alors qu'ils travaillent. Les entreprises augmentent leurs profits en faisant travailler ces salariés pour des salaires de misère. Et ensuite, c'est l'État qui verse à la place le complément de salaire. La partie la plus pauvre de la population masculine voit même son espérance de vie reculer depuis l'an 2000. C'est le progrès.
D'accord. Bon, je vais pas aller en Allemagne. Donc, où est-ce que je peux aller? En Norvège? Alors, la Norvège, c'est bien.
Ah oui, la Norvège, c'est un pays riche aussi.
Bah oui, ça a une bonne réputation. Il fait bon vivre là-bas, non?
Alors, en Norvège, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont fait en Allemagne. Donc, ils ont mis fin aux conventions collectives.
Comme en France.
Voilà, ils essayent de mettre fin aux contrats en CDI. Ils affaiblissent les droits des travailleurs, tout particulièrement ceux des temporaires et intérimaires. Et ils remettent en cause aussi les droits syndicaux.
Bon, d'accord.
Donc, voilà. En Norvège, il y a eu une grève interpro qui s'est déroulée le 25 janvier. Affaire à suivre.
D'accord, donc dans ces pays, il y a des mesures d'austérité, mais il y a aussi des grèves en réaction.
Qui se mettent en place.
Bon, alors je vais plutôt partir au soleil. Par exemple, au Portugal. T'as quelque chose pour le Portugal?
Alors, Portugal, c'est les vacances. Donc, eux, ils proposent la fin des congés
Fin des congés.
Oui, on arrête.
Il n'y a pas de vacances au Portugal.
Non, il n'y a pas de vacances. Des CDI, de la production sociale. Donc, ils ont mis en place un système de rémunération pour les jeunes qui s'appelle les reçus verts. Donc, ce système ne donne plus droit à la protection sociale, au chômage, retraite, maladie, vacances, congés, maternité, etc. Donc, évidemment, les entreprises et les services publics embauchent avec ces reçus verts plutôt qu'avec un CDI ou même un intérim. C'est vachement intéressant, tu ne payes plus du tout de charges. C'est toute une génération qui se retrouve sans protection sociale avec le salaire minimum de 475 euros. Et donc, en plus, de plus en plus souvent, ce sont aussi, donc pas que les jeunes, les parents, les grands-parents qui sont payés en reçus verts. Et ils peuvent se faire licencier du jour au lendemain sans préavis. Le taux de chômage devrait atteindre le niveau record.
Comment ça ? Normalement, si on fait ça, c'est pour créer de l'emploi. Ils sont quand même au chômage ?
Oui, on dirait.
Ça marche pas.
Je sais pas, je comprends pas, ça marche pas. C'est de 13,4% en 2012. Donc voilà, toute la population est en train de devenir de plus en plus pauvre. Donc si je fais une liste, je vais essayer de la faire sans respirer, c'est assez long. Hausse de la TVA, hausse des tarifs dans les transports publics, gel des salaires sur 4 ans, gel des retraites, suppression des 13e et 14e mois pour les fonctionnaires, augmentation de l'âge de la retraite dans le secteur public de 60 à 65 ans, 40 ans de cotisation.
Tu as respiré.
Oui, j'ai respiré, c'est trop long. Non-remplacement d'un départ en retraite sur deux. Enfin, tout, voilà. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais ces mesures, on va les retrouver dans tous les pays. Donc,
c'est pas grave,
on passe à la suite.
Alors, où c'est que je peux partir donc,
Alors, l'Italie, elle a vu dernièrement le prix du pétrole augmenter jusqu'à 1,80 euros le litre. Et ceci a entraîné d'importantes grèves. Donc, il y a eu à partir du 23 janvier. Donc, une prochaine réforme du contrat de travail prévoirait d'abolir les protections contre les licenciements et ôterait pratiquement tout effet aux conventions collectives qui garantissent le niveau des salaires, les horaires et les droits des ouvriers. Tout cela complété par une repression syndicale, comme à Fiat ou le syndicat de la métallurgie, et tout est complètement interdit. Donc le 27 janvier, l'Italie est rentrée en grève et tout le pays était bloqué.
D'accord.
Donc les mesures d'austérité, ça ressemble à celles du Portugal aussi. Hausse de la TVA de 20 à 21%, gel sur 3 ans des salaires des fonctionnaires. À partir de 2013, âge du départ à la retraite pour les femmes de 60 à 65 ans, dès 2014, 67 ans pour les hommes.
C'est des copieurs, hein.
Ouais, c'est forte augmentation des impôts locaux du fait d'une amputation des transferts de l'État aux collectivités locales, privatisation des services publics locaux comme l'énergie, le transport, l'eau et le traitement des déchets. Ça se ressemble beaucoup, ça fait plaisir. Tu veux immigrer en Grande-Bretagne, peut-être ?
Ah oui, la Grande-Bretagne, ça va être mieux.
Oui, ça va être mieux. Donc, les coûts de hache budgétaire frappent surtout les retraités et les personnes âgées.
Bon, ça va pour moi.
2,3 millions de retraités vivent désormais dans la pauvreté. Mais aussi les enfants. Suppression des allocations. Ah oui, tu as des enfants, mince. Suppression des allocations enfants et des subventions maternité, santé et grossesse. Les parents isolés perdent jusqu'à 19% de leurs revenus. Conséquence, près de 4 millions d'enfants vivent dans la pauvreté. 200 000 enfants supplémentaires vont basculer dans la pauvreté en 2013-2014, pendant que l'impôt sur les sociétés baisse de 28 à 24%.
Bon, t'as pas un pays, pas un pays en développement, mais un pays civilisé, là, en Europe, à me proposer ?
Non. Y a l'Irlande. Alors, en Irlande, en fait, les jeunes s'en vont. Carrément.
Et ils vont où ?
Ça, je ne sais pas. Ils s'en vont parce que, à cause des mesures de rigueur, il y a certaines zones de l'Irlande où la moyenne d'âge a augmenté de 20 ans parce que tous les jeunes sont partis. Donc, il y a eu suppression de 10% des postes de fonctionnaires, gel des embauches, réduction de 20% des budgets de la santé et des services sociaux, baisse des salaires jusqu'à 15% dans la fonction publique, réduction de 4% des pensions des retraites du secteur public supérieures à 1 000 euros par mois, baisse des salaires minimum de 11,6%. Je sais plus ce que je lis.
Et respire, c'est pas grave.
Augmentation de l'âge du départ à la retraite. taux de chômage de 14%.
Mais j'ai une idée. Peut-être que je pourrais partir en Belgique. En Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant un moment. Peut-être qu'ils ont été laissés tranquilles, là.
Ouais. Ben, en fait, à peine 2 semaines après son investiture, le nouveau gouvernement, donc dirigé par un socialiste, donc passé à l'action, comme dans tous les autres pays. Et à partir du 30 janvier, il y a eu des grèves. Donc, c'est recul de l'âge du départ à la retraite de 60 à 62 ans, passage de 35 à 40 ans de la durée de cotisation, suppression des retraites anticipées.
Bon, ils ont rattrapé leur retard.
Ils ont enlevé les pensions de survie aussi, que touche le conjoint d'un salarié décédé. Donc ça, ils l'ont supprimé. Ils ont remplacé par une allocation limitée dans le temps. Donc à un moment, quand tu es trop vieille et que ton mari est mort et que tu as vécu encore trop longtemps, enfin, tu n'as plus rien du tout, je ne sais pas. Il y a dans la poste des 5000 emplois qui ont été supprimés. Et bientôt, 24 000 chômeurs seront rapidement privés d'allocations. Les soins de santé réduits, l'enseignement attaqué, licenciement dans les entreprises. Enfin, une hausse du prix du gaz et de l'électricité et la liquidation de ce qui reste de l'indexation des salaires sur les prix.
Bon, bah, il me reste l'Espagne.
L'Espagne. Les licenciements continuent. Le taux de chômage atteint 22,95%, 50% des jeunes de moins de 25 ans.
Oh oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a tant d'indignés en Espagne.
300 expulsions de familles de leur logement par jour et 1 million de logements saisis par les banques.
Et pourquoi ils expulsent de leur logement alors que la moitié des logements sont vides en Espagne ?
Je ne sais pas. Des travailleurs ne reçoivent même pas leur salaire quand les payeurs, les autonomies régionales ou les communes annoncent ne plus avoir les fonds nécessaires. Donc, les travailleurs ne sont pas sans réagir. Après les indignés de 2011... 200 000 salariés de l'éducation, la santé, les pompiers et la police viennent de manifester le 29 janvier pour leur salaire en Catalogne et le 8 février à Madrid. Et il y a une mobilisation nationale aujourd'hui. Et pareil, donc augmentation de la TVA, toutes ces choses-là. La liste continuait. Après cette liste non exhaustive de ce qui se passe en Europe, il faut savoir que cette vague de réformes anti-travailleurs et de grèves ne se limite pas à l'Europe de l'Ouest, donc c'est aussi en Europe de l'Est. Donc, en Roumanie, il y a une vague ininterrompue de contestations qui a lieu depuis début janvier. Manifestations, grèves, échauffourées nocturnes, barricades improvisées, pavés arrachés en guise de projectiles, affrontements en tout genre, touchant toutes les catégories sociales contre la politique d'austérité du gouvernement le 6 février. Et il y a la Roumanie, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte. Tous ces pays sont touchés, tous ces pays
sont en lutte.
Et tous les pays dont j'ai cité avant sont aussi en lutte. Hein. C'est aussi ça qui est important à voir, hein. C'est qu'il se passe des choses horribles, mais...
Il y a des réactions. Et on va continuer à en parler tout à l'heure avec le cas de la Grèce.
Thank you.
l'émission Panthère Rouge de 18h à 19h, on reprend avec, avec Lise.
Voilà.
Bonjour Lise.
Bonjour Claire, bonjour les auditeurs, comment vous allez bien? Alors je voulais vous parler de la Grèce et avant de commencer je vais juste dire que je suis pas allée en Grèce parce qu'en fait je suis à Clermont et je travaille et tout. Mais j'ai lu des articles et alors je vais vous les conseiller. Alors j'ai lu un article qui est dans la revue Carré Rouge et qui est aussi sur le site internet de Carré Rouge qui s'appelle La Rébellion Grecque. Il y a un deuxième article que, en fait où elle reprend des articles donc sur le site de Carré Rouge, donc vous verrez dans les derniers articles sur la Grèce. Et un autre article qui s'appelle Crise humanitaire sans précédent en Grèce de Mitralia Sonia, publié sur le site Europe Solidaire. Et alors, pour tout te dire sur la question grecque, jusqu'à présent, on disait simplement qu'il faut refuser de payer la dette publique. Mais maintenant, au vu des expériences, on peut être plus précis. Alors, je vais essayer de préciser ma pensée. En fait, il y a des sensibilités différentes. Par exemple, Stathis Kouvelakis, qui est un marxiste grec qui était venu à Panthère Rouge présenter un séminaire qu'il faisait avec l'étang des cerises, et qui est un éminent universitaire en Angleterre. Pour lui, le gouvernement grec devrait se déclarer en cessation de paiement de sa dette. Et pour moi, il s'agit de bien plus que cela. Voir sa déclaration est déjà un peu en retrait par rapport à ce qu'on peut espérer de la mobilisation et de la politisation des Grecs. Pour eux, la dette est illégitime et parmi les slogans qui reviennent beaucoup, il y a « de prendre sa vie en main ». Cette soif de démocratie peut, si elle s'exporte, balayer purement et simplement notre système économique. Il ne s'agit donc plus d'essayer de stabiliser les finances européennes, mais bien de renverser le capitalisme.
On dirait une conclusion. Tu vas commencer par nous rappeler comment les Grecs en sont arrivés là?
Eh bien si, je veux bien. Donc ça a commencé en fin 2009. C'est en Grèce qu'a commencé la crise des dettes publiques européennes. C'est là aussi que les conséquences des politiques menées pour les créanciers sont les plus criantes. Alors en avril 2011, les agences de notation Moody's en tête se sont acharnées plus que jamais contre ce pays. Conséquence, le PIB grec a chuté. Sous l'effet de la récession enclenchée par les mesures d'austérité imposées à la Grèce, en mai 2010, la dette publique a atteint 154% du PIB. Donc c'est le deuxième pays le plus endetté au monde, après le Japon. Les risques d'insolvabilité sont importants, alors les hedge funds demandent au gouvernement grec, à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne de nouvelles garanties, d'où les nouveaux plans d'austérité que le gouvernement grec sort toutes les 3 semaines, plutôt tous les 6 mois, mais en gros c'est énorme. Le dernier en date est celui du 12 février, il y a une semaine à peine. C'est donc par l'un des plus petits pays que la crise de la dette publique a commencé, comme si les investisseurs financiers voulaient tester les capacités de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne à leur résister en attaquant le maillon le plus faible de la zone euro. Mais en fait, la Grèce n'a rien de particulier, les mécanismes de la dette sont les mêmes qu'ailleurs. C'est les mesures de baisse de l'impôt qui réduisent les recettes et créent un déficit public qui est financé par l'endettement. Alors peut-être les cadeaux aux riches y sont plus importants qu'ailleurs, mais peut-être pas, en fait. Pour résumer, l'économie grecque n'a rien de particulier, elle n'est qu'un élément d'un système mondial en crise, un élément qui a été mis en avant et derrière lequel les autres pays européens aiment se cacher. Le capitalisme est par définition injuste, mais c'est d'autant plus injuste pour les Grecs qui paient cher cette crise.
Et justement, tu peux nous donner des éléments de la dégradation de la vie des Grecs ?
Allez, je vais vous donner plein de détails en vrac. Par exemple, certaines entreprises ont des retards importants dans le paiement des salaires. Donc, par exemple, l'ERT, la chaîne nationale de télévision. Faute de travail, 150 000 émigrés albanais ont déjà quitté le pays. Et la Grèce se prépare à redevenir un pays d'émigration comme au début du siècle, comme l'Irlande.
L'Irlande, ouais.
Avec la croissance du chômage et les difficultés pour subsister, la prostitution se développe, la délinquance est en expansion, les petits larcins peuvent conduire à des drames. Par exemple, à Patras, une jeune femme a été retrouvée pendue par une couverture dans sa cellule à la suite d'une arrestation. Et pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'elle avait volé 3 t-shirts. Super. Au niveau santé aussi, c'est terrible. Le nombre de lits d'hôpital a été réduit par décision gouvernementale de 40%. Il faut payer très cher les soins de santé, même pour accoucher. Super. Il n'y a même plus dans les hôpitaux publics des pansements et des médicaments de base comme l'aspirine. Les coupes budgétaires dans les domaines de la santé, l'augmentation du chômage et la fermeture de milliers de petits commerces ont entraîné une série de calamités, dont une forte augmentation du nombre de suicides et des personnes dépressives ou droguées. Alors un autre exemple d'un fait divers à Athènes, c'est le suicide d'un propriétaire d'un petit magasin retrouvé pendu avec une lettre précisant « Ne cherchez pas d'autres raisons, la crise économique m'a conduit à ça ». Voilà, super. Tu vois, tu pensais ne pas être très gay avec ta chronique, mais...
Non, c'est...
Mon introduction est pas
tu
mal non plus.
J'ai presque envie de pleurer quand même.
Dans les centres des grandes villes du pays, on trouve des dizaines de milliers de SDF. Les associations locales aidant les sans-abri, proposant des repas ou des soins, notamment Médecins du Monde ou la Croix-Rouge, ne peuvent plus faire face au flot des personnes qui cherchent de l'aide auprès d'elles. Et voilà. Et au niveau de l'enseignement aussi, on voit en fait, on constate que dans les écoles, que les enfants s'évanouissent en classe faute d'avoir mangé suffisamment. Et puis l'État n'a toujours pas été foutu de distribuer les manuels scolaires.
Super. Oui, donc c'est, on dirait, une description d'un pays du tiers-monde. Et tu penses que malgré tout ça, il y a de l'espoir ?
Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de parler du tiers-monde comme
oui,
ça. Enfin,
tiers-monde,
c'est pire que tout, quoi, la Grèce. Enfin, bref.
Ouais.
Enfin, la Grèce, je veux dire, l'Europe, enfin, les conditions de... Enfin, l'austérité, c'est vraiment une agression très forte. Et pourtant, oui, je soutiens qu'il y a de l'espoir. Et plus que jamais. Parce que dans ce contexte vraiment tout pourri, on a vu de nouvelles formes de lutte, d'organisation, de solidarité. Alors il y a les assemblées populaires, donc sur les grandes places des grandes villes, il y a des comités populaires, il y a un mouvement aussi qui refuse de payer les taxes exigées pour la dette grecque. Puis voilà, il y a tout un système de débrouille entre habitants. Et puis à cela s'ajoutent des choses qu'on a déjà vues ailleurs, la reprise par les travailleurs d'une entreprise. On a par exemple l'exemple d'un grand quotidien grec, Eleftherotypia, et aussi, c'est un fait assez remarquable, la reprise par les travailleurs d'un hôpital. Alors, je vais vous expliquer un peu l'exemple de ces gens-là qui s'appellent « Je ne paie pas ». Donc il y a 2 ans, ça a commencé. Au début, ça concernait les autoroutes. Les autoroutes ont été reprises par des concessionnaires privés qui les ont rendues payantes. Comme souvent... il n'y avait pas de route alternative. Les Grecs étaient obligés de débourser environ 5 euros pour aller voir un proche, un parent ou pour aller dans leur champ. Et donc, des travailleurs et des chômeurs se sont rassemblés dans ce groupe, Je ne paie pas, et ils ont fait des actions, on ne paie pas l'autoroute. Et donc, en gros, par week-end, les entreprises perdaient 50 000 euros. Donc, vraiment des actions qui avaient un peu du poids. Et ce mouvement s'est étendu à d'autres champs. Donc par exemple, la santé, ils incitent les gens à ne pas payer la franchise qui est en Grèce de 5 euros. Voilà, super. Et ils ont fait des actions pour rendre l'accès à la plage libre et gratuite. Ça aussi, je ne comprends pas comment ça peut être payant, mais bon, voilà, c'est la Grèce. Et enfin, ils organisent des actions pour remettre l'électricité à ceux à qui on l'a coupée. Alors, petite précision, en septembre, le Parlement a voté une nouvelle taxe immobilière. Chaque mètre carré coûte entre 50 centimes et 20 euros. Voilà, et c'est leur EDF local qui collecte cet impôt et qui coupe l'électricité si on ne paie pas. Alors forcément, comme il y a beaucoup de propriétaires qui en fait ont de faibles revenus, il y a eu de nombreux ordres de coupure. Et le groupe Je ne paie pas a organisé des actions, dont une le 30 octobre, et elle écrivait dans leur compte rendu. Plus de 200 habitants du quartier ont bloqué l'émission des ordres de coupure du courant et ont aussi photocopié les documents concernant les coupures de courant réalisées afin que les comités de quartier rebranchent à nouveau le courant. Le mouvement Je ne paie pas a appuyé et soutenu les actions des habitants. Le peuple s'organise et prend sa vie entre ses mains. Le peuple s'auto-organise et résiste. Le peuple acquiert une formidable confiance en lui à des rythmes accélérés et chassera sans retour tous ses dynastes.
Résistance.
Oui, c'est clair. Et l'autre exemple. À l'hôpital, donc c'est l'hôpital de Kilkis. Il est occupé et géré par ses travailleurs. Ils ont décidé de faire grève. Alors, ils font grève pour les soins en dehors des urgences. Ils assurent par contre les urgences et les soins gratuits pour les personnes en ayant besoin. Ils rappellent que l'État doit les payer, revendiquent des salaires tels qu'ils étaient avant le début de la crise, mais appellent aussi à la solidarité financière des citoyens. Enfin, ils appellent tout le monde à en faire autant. Donc, je cite, « Nous appelons nos concitoyens à faire preuve de solidarité avec notre mouvement. Tout citoyen justement traité de notre pays à agir par des actions de contestation et d'opposition contre ses oppresseurs. Nos collègues d'autres hôpitaux à prendre des décisions similaires. Les employés dans d'autres domaines du secteur secteur public et privé et les participants à des organisations syndicales et progressives à agir de même afin d'aider notre mobilisation à prendre la forme d'une résistance universelle, ouvrière et populaire et de soulèvement jusqu'à la victoire finale contre l'élite économique et politique qui aujourd'hui opprime notre pays et le monde entier.
Ah bah c'est meilleur que ce que disent nos syndicaux.
Oui, en fait, mais c'est marrant parce que voilà, enfin moi j'ai du mal à imaginer l'hôpital Destin, enfin les docteurs se réunir et dire en gros qu'ils veulent faire la révolution en France et dans le monde quoi. Et ben là, c'est ce qui se passe quoi. C'est fou. Voilà. Et donc ils ont l'air déterminés. Alors je rappelle que en juin dernier, il y a eu une répression très très forte où ils ont vraiment gazé les manifestants, enfin, à l'arme chimique, c'était vraiment méchant. Et en fait, ils sont vraiment déterminés parce que cette répression très violente les a confirmés plus que jamais dans leur action, quoi. Mmh. Et on retrouve, alors je vais pas tout citer parce que sinon vous allez vous endormir, mais on retrouve vraiment dans plein de domaines ce mot d'ordre de on prend notre vie en main, on y va. Et puis, en fait, ils le disent pas de manière. Enfin, ils réinventent le discours politique. C'est pas des termes qu'on voit dans les partis politiques, mais ils disent vraiment. Ils ont compris qui était l'ennemi et ils disent qu'ils veulent l'affronter vraiment quoi. Alors, enfin, ils reçoivent un écho important de leur lutte en Europe. Le film Debtocratie, qui parle donc de ce phénomène de la dette publique en Grèce, où ils expliquent des trucs qu'on retrouve partout, a été visionné alors plus de 60 000 fois si on fait la somme sur YouTube et Dailymotion dans sa version française, sans compter toutes les projections dans les salles. Donc il y en a eu beaucoup dans le Puy-de-Dôme parce que le comité pour l'audit citoyen de la dette a beaucoup travaillé et donc a projeté ce film dans tous les petits bleds du Puy-de-Dôme. Je les salue. mais aussi partout ailleurs. Et puis après les dernières mesures d'austérité, donc il y a une semaine, il y a eu des appels de la part des Grecs pour une grève de 48 heures, pour que leur grève de 48 heures soit relayée partout dans le monde. Et notamment, il y a eu un appel à la grève hier, le 18 février. Et voilà, ça, en fait, les indignés du monde entier ont répondu. Il y a eu des rassemblements avec ce mot d'ordre « We are all Greeks now ». Qui est ressorti vraiment. Voilà, donc.
Je me sens grecque aussi. Quand je vois ça, je me sens très grecque. Et donc, c'est pour bientôt le renversement du capitalisme.
Eh bien, pourquoi pas? L'isolement de la Grèce pourrait être fatal au mouvement de ce peuple créatif et combatif, mais le fait que s'accélère à la fois la prise de conscience populaire de la dette publique illégitime dans tous les pays d'Europe, et en même temps qu'il y ait cette solidarité avec le peuple grec, ouvre vraiment la perspective d'un changement radical, et il le faut, international. Alors, c'est possible. La question est maintenant celle du passé à une autre société sans attendre que toutes les institutions en Grèce, en Europe ou ailleurs aient été détruites. Très certainement, il faut qu'ils s'en aillent tous, les banquiers, les politiques et autres capitalistes, mais en même temps, il faut que nous commencions à nous passer de leurs institutions pour prendre en charge toute la vie économique et politique et sociale. Et c'est bien ce que commencent à faire plus ou moins consciemment les Grecs de l'hôpital de Kilkis, les indignés avec leur assemblée, les jeunes Égyptiens qui s'opposent à l'armée.
Me off, take your hands off that girl. You have already had enough. Hey, shut the fuck up, boy. You sure can get it up. At least that's what you say. You don't know how to stop. You just can't walk away. And then we saw her face. You said she's something else. I know you just can't wait. There's more than I can take. You just can't lay it down. You just can't lay it down. You're just gonna lay her down. hard to see. For all our history, I guess it's in your blood. On that we can agree. And when we saw her face, I said she's something else. She was your only hope, and still you let her down. You just can't lay it down. You just can't lay it down. You're just gonna let her down. Hey, shut the fuck up, boy. You're starting to piss me off. Take your hands off that girl. You have already had enough. Hey, shut the fuck up, boy.
L'émission Panthère Rouge se termine. Elle a été préparée par nos soins à Lise, Claire et à Clément.
À la technique.
Merci. Alors, Clément.
N'hésitez pas à nous envoyer des mails à Panthère Rouge tout attaché 93.3 en chiffres @gmail.com.
Et à nous réécouter si vous n'avez pas tout compris parce que c'était un peu long et un peu bourratif sur notre audioblog.
Alors,
Arte Radio.
Bon, tapez Panthère Rouge dans Google et c'est le premier lien.
Et puis vous pouvez aussi être fan de nous sur Facebook parce que comme ça vous saurez qu'il faut nous écouter. C'est bien ça, non?
C'est pas bien. C'est bien, bien oui.
D'accord.
Alors on a écouté quoi, Lise?
On a écouté Yum and the Wonder Rabbit.
On a aussi écouté Al-Khatib.
Je le dis avec un accent français pour que vous compreniez bien.
Et Peter Bjorn and John.
Nous, on se retrouve. Ah non, voilà. On va se retrouver le 4 mars, mais avant ça, j'ai quelques dates à vous faire part. Alors, vous pouvez aller vendredi 2 mars à voir le film Deptocratie, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, mais si vous y allez au cinéma de Gercovie à Cournon, ce sera bien, parce qu'il y aura un débat ensuite animé par Marc Chauvin. Le 3 mars, au Café Lecture Les Augustes, il y a Jean-Pierre Céréza qui est invité par les amis du monde diplomatique pour parler des multinationales et de leurs nouvelles formes. En fait, ils vont parler en particulier de l'installation de la firme Michelin en Inde. Puis on se reverra, mais je vous en parle quand même. Non, je vous en parle pas. Allez.
Comme ça, vous avez une raison de nous écouter la semaine dans 2 semaines. Une raison de plus de nous écouter dans 2 semaines.
Donc nous, on se retrouve le 4 mars. Et d'ici là, comme dit l'ami Colin,
surtout ne lâchez rien.